Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale. Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Moustaki, c'est mon frère.
Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission.
Merci.
De qui, de quoi nous parles-tu aujourd'hui?
Alors, de qui? Alessandro Baricco. C'est un auteur italien qui a écrit plusieurs romans, plusieurs, oui, des pièces de théâtre aussi. On connaît en France Soie, S-O-I-E, sur la soie, et aussi Novecento Pianista. Il y a aussi des films qui ont été faits dessus. À propos de sur ses romans, et il a écrit aussi Océan Mer, qui est, c'est toujours à la fois des récits réalistes, les deux premiers un peu historiques sur les vers à soie, sur la conquête de la soie, et toujours il y a un mélange de poésie, de ça se décale légèrement du réel à chaque fois, et c'est ça que j'aime chez Baricco.
Down by the sea.
sable à perte de vue. Entre les dernières collines et la mer, dans l'air froid d'un après-midi presque terminé et baigné par le vent qui souffle toujours du nord. La plage et la mer. Ce pourrait être la perfection, image pour un œil divin, monde qui est là et c'est tout. Muette existence de terre et d'eau, œuvre exacte et achevée, vérité, vérité. Mais une fois encore, c'est le salvateur petit grain de l'homme qui vient enrayer le mécanisme de ce paradis. Une ineptie qui suffit à elle seule pour suspendre tout le grand appareil de vérité inexorable, un rien, mais planté là dans le sable. Imperceptible accroc dans la surface de la Sainte Icône, minuscule exception posée sur la perfection de la plage illimitée. À le voir de loin, ce n'est guère qu'un point noir, au milieu du néant, le rien d'un homme et d'un chevalet de peintre. Le chevalet est amarré par de minces cordes à quatre pierres posées dans le sable. Il oscille imperceptiblement dans le vent qui souffle toujours du nord. L'homme porte des cuissardes et une grande veste de pêcheur. Il est debout face à la mer, tournant entre ses doigts un fin pinceau et sur le chevalet, une toile. Il est comme une sentinelle, c'est ce qu'il faut bien comprendre, dressé là pour défendre cette portion du monde contre la silencieuse invasion de la perfection. Fêlure infime qui désagrège la spectaculaire mise en scène de l'être. Parce qu'il en va toujours ainsi. La petite lueur d'un homme suffit pour blesser le repos de ce qui était à un doigt de devenir vérité. Et redevient alors, immédiatement, attente et interrogation. Par le simple et infini pouvoir de cet homme qui est fenêtre, lucarne, fente ou s'engouffre à nouveau des torrents d'histoire, répertoire immense de ce qui pourrait être, déchirure sans fin. Blessure merveilleuse, sentier foulé de milliers de pas où rien ne pourra plus être vrai, mais où tout sera. Comme sont, précisément, les pas de cette femme qui, enveloppée d'un manteau violet, la tête couverte, mesure lentement la plage, longeant le ressac de la mer, et raye de droite à gauche la perfection désormais enfuie du grand tableau, grignotant la distance qui la sépare de l'homme et de son chevalet, jusqu'à n'être plus qu'à quelques pas de lui. Puis, juste à côté, là où s'arrêter n'est rien, et sans dire mot, regarder. L'homme ne se retourne même pas. Il continue à fixer la mer. Silence. De temps en temps, il trempe le pinceau dans une tasse de cuivre et trace sur la toile quelques traits légers. Les soies du pinceau laissent derrière elles l'ombre d'une ombre très pâle que le vent sèche aussitôt en ramenant la blancheur d'avant. De l'eau. Dans la tasse de cuivre, il n'y a que de l'eau. Et sur la toile, rien. Rien qui se puisse voir. Souffle comme toujours le vent du nord et la femme se serre dans son manteau violet. Plaçon, voilà des jours que vous travaillez ici. Pourquoi donc emporter avec vous toutes ces couleurs si vous n'avez pas le courage de vous en servir ? La question paraît le réveiller. Elle est parvenue jusqu'à lui. Il se tourne pour regarder le visage de la femme et quand il parle, ce n'est pas pour répondre. « Je vous en prie, ne bougez pas, » dit-il. Puis il approche le pinceau du visage de la femme, hésite un instant, le pose sur les lèvres et lentement le fait glisser d'un coin à l'autre de la bouche. Les soies se teignent de rouge carmin. Il les regarde, les trempe à peine dans l'eau et relève les yeux vers la mer. Sur les lèvres de la femme reste l'ombre d'une saveur qui l'oblige à penser « de l'eau de mer ». Cet homme peint avec de l'eau de mer. Et c'est une pensée qui fait frissonner. Depuis longtemps déjà, elle s'est retournée et elle mesure de nouveau la plage immense du rosaire mathématique de ses pas. Quand le vent passe sur la toile sécher une bouffée de lumière rose, nue à voguer dans le blanc. On pourrait rester des heures à regarder cette mer, et ce ciel, et tout ce qui est là. Mais on ne trouverait rien de cette couleur, rien qui se puisse voir. La marée, dans ces contrées, arrive avant que tombe l'obscurité, juste avant, L'eau entoure l'homme et son chevalet, elle les prend doucement, mais avec précision. Ils restent là, l'un et l'autre, impassibles, comme une île miniature ou une épave à deux têtes. Plaçon, le peintre. Chaque soir, une petite barque vient le chercher, peu avant le coucher du soleil, quand l'eau déjà lui arrive au cœur. C'est lui qui le veut ainsi. Il monte dans la petite barque, il y charge son chevalet et le reste, et se laisse ramener. La sentinelle s'en va, son devoir est accompli. Péril écarté. Dans le couchant, c'est un l'icône qui, une fois de plus, n'a pas réussi à devenir sacré. Tout cela à cause de cet homme et de ses pinceaux. Et à présent qu'il est parti, il n'y a plus assez de temps. L'obscurité suspend tout. Il n'y a rien qui puisse, dans l'obscurité, devenir vrai.
Écrivain italien, homme de théâtre, musicologue, Alessandro Baricco, 61 ans, est un raconteur d'histoire, un trait d'union entre la culture et le grand public. Ses premières armes, il les fait sur la télévision publique italienne dans les années 90.
Non è che uno quando inizia a raccontare la storia di Cyrano de Bergerac può smettere, quindi ve la beccate fino alla fine.
Blagueur, passionné, il captive son auditoire avec les grands classiques de la littérature.
Cyrano si china su di lui e gli dice una frase da western, una cosa veramente hollywoodiana. Rossana ha scelto voi.
Il fait aussi découvrir les grands compositeurs. Ce jour-là, c'était Rossini.
Cosa che da 170 anni fa un uomo decide di farmi venire un po' di tachicardia e ci riesce.
Le public découvre l'écrivain derrière l'animateur et s'arrache des romans traduits dans plusieurs langues. Virtuose pour mettre les mots en musique, Alessandro Baricco se définit avant tout comme un artisan. C'est dans cet esprit qu'il a fondé une école d'écriture à Turin, sa ville natale.
Je m'imagine souvent les élèves de Michel-Ange, ceux qui ont peint avec lui la chapelle Sixtine. Cet équilibre entre main sale, froid, fatigue et la magie de l'endroit, c'est la définition même de la boutique du maître artisan. C'est ainsi que l'on apprenait autrefois et c'est ce que l'on veut pour nos étudiants maintenant.
Une école de narration ouverte sur le monde numérique, celui de l'immédiateté, des séries télé et d'Internet. Un bouleversement que l'auteur italien questionne dans un essai à succès, Les Barbares.
Je crois qu'Internet, c'est une des 4-5 grandes inventions de l'histoire des humains. C'est comme après l'invention de Gutenberg.
Dans son dernier livre, l'essayiste poursuit sa réflexion sur notre quotidien ultra connecté qui change notre manière de voir et de penser le monde. En équilibre entre deux civilisations, Alessandro Baricco joue les explorateurs des temps modernes avec jubilation.
Que compte Océan Mer?
C'est l'histoire d'une pension, la pension Almayer, qui est située sur une falaise face à l'océan. Et entre la pension et l'océan, il y a la plage. Et dans cette pension se rencontre le destin de quelques personnages, je ne sais plus exactement, il y en a peut-être 7, une dizaine. Il y a des enfants qui tiennent la pension, il y a une femme mystérieuse, qu'on voit là, dans son manteau violet, il y a un peintre, Plasson. Il y a un autre personnage, Barthelboom, qui lui vient rechercher l'endroit exact où se termine l'océan. Il essaie de mesurer les vagues pour voir à quel endroit se termine l'océan. Il y a plein de personnages comme ça qui se croisent, une jeune fille qui est hypersensible, quand le souffle du vent pourrait la tuer. Il y a plein de personnages qui se retrouvent pour vivre leur destin à cet endroit-là.
Peux-tu nous lire un ou deux autres extraits, s'il te plaît ?
Volontiers. La pension Almayer, tu pouvais y arriver à pied en descendant par le sentier qui venait de la chapelle de Saint-Amand, mais aussi en voiture, par la route de Cartel, ou sur une barge en descendant le fleuve. Le professeur Barthelboom y arriva par hasard. C'est ici la pension de la paix ? Non. La pension de Saint-Amand ? Non. L'hôtel de la Poste ? Non. Le hareng royal ? Non. Bien. Il y a une chambre ? Oui. Je la prends. Le grand livre avec les signatures des pensionnaires attendait ouvert sur un pupitre de bois. Un lit de papier fraîchement refait qui attendait les rêves d'autres voix. La plume du professeur se glissa voluptueusement entre les draps. Ismaël Adelante, Ismaël Prof. Barthelboom. Avec fioriture et tout, quelque chose de bien fait. Le premier Ismaël est mon père, le second mon grand-père. Et celui-là? Adelante? Non, celui-là. Oui, là. Prof. Professeur, voyons, ça veut dire professeur. C'est bête comme nom. Ce n'est pas un nom. Je suis professeur. J'enseigne, vous comprenez? Je sors dans la rue et les gens me disent « Bonjour, professeur Barthelboom. Bonsoir, professeur Barthelboom. » Mais ce n'est pas un nom, c'est ce que je fais, j'enseigne. Pas un nom. Non? Bon, moi je m'appelle Dira. Dira? Oui, je sors dans la rue et les gens me disent « Bonjour Dira, bonne nuit Dira. Tu es jolie aujourd'hui Dira. Quelle belle robe tu as Dira. Tu n'aurais pas vu Barthelboom par hasard? Non, il est dans la chambre, premier étage, la dernière au fond du couloir. Voilà les serviettes de toilette, tenez, on voit la mer. J'espère que ça ne vous ennuie pas. » Le professeur Barthelboom, dorénavant Barthelboom simplement, prit les serviettes de toilette. Mademoiselle Dira, oui, puis-je me permettre une question? C'est-à-dire, quel âge avez-vous? 10 ans. Ah, c'est ça! Barthelboom, depuis peu ex-professeur Barthelboom, prit ses valises et se dirigea vers les escaliers. Barthelboom? Oui, on ne demande pas leur âge aux demoiselles. C'est vrai, veuillez m'excuser. Premier étage, la dernière au fond du couloir. Dans la chambre, au fond du couloir, premier étage, il y avait un lit, une armoire, 2 chaises, un poêle, un petit écritoire, un tapis bleu, 2 tableaux identiques, un lavabo avec miroir, un coffre et un petit garçon. Assis sur le rebord de la fenêtre, ouverte, tournant le dos à la chambre et les jambes pendant dans le vide. Barthelboom se produisit dans un tout sautement mesuré, comme ça, pour faire du bruit. Rien. Il entra dans la chambre, posa ses valises, s'approcha pour regarder les tableaux, les 2 mêmes, incroyables, s'assit sur le lit, ôta ses chaussures avec un soulagement évident, se releva, alla se regarder dans le miroir, constata que c'était toujours lui. On ne sait jamais. Jeta un coup d'œil dans l'armoire et accrocha son manteau, puis s'approcha de la fenêtre. « Tu fais partie du mobilier ou tu es là par hasard ?» Le petit garçon ne bougea pas d'un millimètre, mais répondit « Mobilier. Ah !» Barthelboom revint vers le lit, défit sa cravate et s'étendit. Taches d'humidité au plafond, comme des fleurs tropicales dessinées en noir et blanc. Il ferma les yeux et s'endormit. Il rêva qu'on lui demandait de remplacer la femme canon au cirque Bösendorf. Et qu'arrivé sur la piste, il reconnaissait au premier rang sa tante Adélaïde, femme exquise mais de mœurs douteuses, qui embrassait d'abord un pirate, puis une femme identique à elle, et enfin la statue en bois d'un saint qui, d'ailleurs, n'était pas une statue, puisqu'elle se mit tout à coup à marcher et à venir droit sur lui, Barthelboom, en criant quelque chose de pas très compréhensible, mais qui souleva pourtant l'indignation du public tout entier, au point de l'obliger, lui, Barthelboom, à se sauver en prenant ses jambes à son cou et en renonçant même à la sacro-sainte compensation négociée avec le directeur du cirque, 128 sous pour être exact. Il se réveilla et le petit garçon était encore là, mais il était tourné de l'autre côté et le regardait. Et même, il était en train de lui parler. « Vous y êtes déjà allé, vous, au cirque Bösendorf ?»« Pardon ?»« Je vous ai demandé si vous y étiez déjà allé au cirque Bösendorf. » Barthelboom se redressa et s'assit dans son lit. « Qu'est-ce que tu en sais, toi, du cirque Bösendorf ?»« Rien. C'est juste que je l'ai vu. Il est passé par ici l'an dernier. Il y avait des bêtes et tout, il y avait aussi la femme canon. » Barthelboom s'interrogea sur l'opportunité de demander des nouvelles de la tante Adélaïde. Il est vrai qu'elle était morte depuis des années, mais ce petit garçon avait l'air bien informé. Finalement, il préféra se contenter de descendre du lit et de s'approcher de la fenêtre. « Tu permets, j'aurais besoin d'un peu d'air. » Le petit garçon se poussa un peu plus loin sur le rebord de la fenêtre. Air froid et vent du nord. Devant, jusqu'à l'infini, la mer. « Qu'est-ce que tu fais assis là tout le temps ?»«
Je regarde. »«
Il n'y a pas grand-chose à regarder. »«
Vous plaisantez ?»«
Il y a la mer, d'accord, mais la mer, c'est toujours pareil, la mer, jusqu'à l'horizon. »« À la rigueur, il passera un bateau, mais ce sera bien le bout du monde. »
Le petit garçon se tourna vers la mer, se retourna vers Barthelboom, se tourna encore vers la mer, se retourna encore vers Barthelboom. « Combien de temps vous allez rester » demanda-t-il.
Je ne sais pas, quelques jours.
Le petit garçon descendit de la fenêtre, alla vers la porte, s'arrêta sur le seuil, demeura quelques instants à examiner Barthelboom.
Vous êtes sympathique. Peut-être que quand vous partirez, vous serez un peu moins stupide.
Une curiosité grandissait chez Barthelboom de savoir qui les avait élevés, ces enfants. Un phénomène, à l'évidence.
You lead me down. To the ocean, so lead me down by the ocean. You know, it's been a long time. You always lead me tongue-tied. All this time is for us. I love you just because. You lead me down to the ocean. The world is fine by the ocean. You know this time's for real. It helps the heart to heal. You know it breaks the seal of the talisman that haunts. And so you look at me in need. The space that means as much to me. Down to the ocean, our world is fine by the ocean. You know what way it is. Life, it's so hard to live up to. So why are you still dressed in your morning suit, I assume?
high soon. You lead me down to the ocean. Don't leave me down by the ocean, the ocean.
J'aime le décalage de la réalité. J'aime quand on n'est pas premier degré. Quand tout à coup, on va saisir des bribes infinies de sentiments. Comme, qu'est-ce qu'il y a à voir à la mer? Vous plaisantez? Ça, j'adore. J'adore ces passages-là, ou de rêves, ou tout à coup, voilà, de l'improbable, d'une étrangeté, où on sait que ça, bien sûr que ce n'est pas la réalité, mais ça parle de la réalité profonde des êtres.
La vivacité du style, peut-être aussi.
Ah oui, bah le style de Barrico, son humour. Et c'est très, très bien écrit.
Merci.
Je t'en prie.
À bientôt.